Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovine, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Louis Drillon et Julie Delabrosse. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Emmanuel Morse-Duncan.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Connaître un homme aujourd'hui veut surtout dire connaître ce qu'il y a en lui d'irrationnel, ce qu'il ne contrôle pas, ce qu'il effacerait de l'image qu'il se fait de lui. Voilà ce qu'écrivait André Malraux dans ses Anti-mémoires publiés en 1967. La part d'irrationnel de l'homme, longtemps niée par la théorie classique, ressurgit aujourd'hui comme une tentative d'explication des grandes crises économiques, remettant en question le dogme de l'efficience des marchés. Les émotions et leur influence sur les comportements des entrepreneurs ou des financiers, voilà ce que les économistes semblent avoir longtemps négligé. Alors quel rôle les fameux esprits animaux théorisés par Keynes jouent-ils dans le déclenchement des crises financières ? C'est ce que nous allons voir dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. L'irrationalité à l'origine des crises, on en parle avec Michaël Lenné, professeur d'économie à Sciences Po Lille, membre des économistes atterrés et auteur de l'ouvrage « Sous l'emprise des esprits animaux, essai sur l'anticipation d'investissement des entrepreneurs » paru aux éditions Classiques Garnier, et Tristan Roger, maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste de finances comportementales. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
Le fait marquant en la matière est l'extrême précarité des données à l'aide desquelles nous sommes obligés d'effectuer nos évaluations des rendements escomptés. Notre connaissance des facteurs qui gouverneront le rendement d'un investissement quelques années plus tard est en général très limitée et souvent négligeable. À part les francs, on doit avouer que, pour estimer 10 ans ou même 5 ans à l'avance le rendement d'un chemin de fer, d'une mine de cuivre, d'une fabrique de textile, d'une marque pharmaceutique, d'un transatlantique ou d'un immeuble de Londres, les données dont on dispose se réduisent à bien peu de choses, et parfois à rien. En fait, ceux qui cherchent à effectuer sérieusement une telle estimation forment souvent une si petite minorité qu'ils n'ont pas d'influence sur le marché. Les hommes d'affaires jouent un jeu mixte d'adresse et de hasard, dont les résultats moyens pour les joueurs ne sont pas connus de ceux qui prennent une main. Si la nature humaine n'avait pas le goût du risque, si elle n'éprouvait aucune satisfaction, autre que pécuniaire j'entends, à construire une usine ou un chemin de fer, à exploiter une mine ou une ferme, les seuls investissements suscités par un calcul froidement établi ne prendraient sans doute pas une grande importance.
Michaël Lenné et Tristan Roger, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre un extrait de la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie de Keynes, publié en 1936. Et ce que Keynes nous dit ici, c'est qu'au moment de réaliser un investissement, le plus souvent, on est dans une incertitude quasi totale, Michaël Lenné.
Oui, tout à fait. En fait, le thème de l'incertitude surgit très tôt dans la pensée de Keynes et au cœur de l'économie. Il vient en fait à l'économie par la philosophie. Il entame une thèse sur le raisonnement en incertitude qu'il appelle dans un sens très spécifique les probabilités. Et c'est une pensée qui occupe ces jeunes années, qui va irriguer ensuite toute sa théorie économique.
Il parle d'une incertitude radicale.
Tout à fait. En fait, les décisions économiques les plus cruciales en quelque sorte baignent dans l'incertitude la plus radicale, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une domestication par les mathématiques ou les probabilités. Donc ces décisions les plus radicales, c'est l'investissement productif. Hein, par exemple, si j'investis dans des bureaux, j'investis pour 20 ou 30 ans, ce sont les robots, les machines, ce sont ce qu'on appelle en économie le capital, c'est-à-dire tous les moyens de production. Et donc dans l'investissement productif, nous ne pouvons évaluer la rentabilité de l'investissement sur toute sa durée de vie. Et ce n'est pas nécessairement parce que les individus sont irrationnels, c'est parce que rationnellement, nous ne pouvons prédire le futur, car il est radicalement incertain. Et de même, du côté du financement de cet investissement productif, il y a là aussi une incertitude radicale, car là encore, ça engage beaucoup d'anticipation sur l'avenir. Si par exemple, vous faites appel au marché financier, ce qui fait la condition de l'échange sur un marché financier, c'est le désaccord sur le futur. Hein, pour qu'il y ait un échange, une transaction sur un marché financier, il vous faut donc un acheteur et un vendeur. Nécessairement, l'acheteur croit que les courbes vont monter, sinon il reporterait son achat, et le vendeur croit l'inverse, que les courbes vont baisser, sinon il reporterait sa vente. Donc nous avons un désaccord qui est source d'incertitude, qui est à la fois le résultat de l'incertitude, le fruit d'une incertitude fondamentale qui concerne l'avenir et qui en même temps engendre aussi une forme d'incertitude. Et nous avons ça pour toutes les décisions, donc les plus cruciales, puisqu'elles engagent l'économie pour l'avenir et l'avenir le plus lointain.
Tristan Roger, cette incertitude, elle est au centre des marchés financiers.
Oui, en effet, comme l'a dit mon collègue, c'est vraiment les différences d'opinion qui vont générer les échanges sur les marchés. Le fait que le prix actuel d'un titre, c'est l'idée qu'on se fait des événements futurs, l'idée qu'on se fait des flux futurs qui vont être liés à ce titre, et donc les probabilités, comme parlait Keynes, de ces différents événements. Et évidemment, c'est le futur, on ne peut pas le connaître avec certitude, donc on l'estime, on va essayer d'estimer ces probabilités, mais il y a plein d'éléments de la nature différents, plein de possibilités différentes, et donc chaque individu va avoir son estimation propre, ce qui va générer des différences d'opinion et ce qui va donc générer des incitations à vendre ou à acheter.
Alors la question qui se pose, c'est à quoi est due cette incertitude selon Keynes? Est-ce qu'elle est due à l'instabilité du monde en général ou peut-être aux limites de l'entendement humain, Michael Lenné?
Alors c'est a priori les deux, même s'il y a des débats dans la science économique pour savoir si l'incertitude était de nature plutôt ontologique, c'est-à-dire qui renvoie à la configuration de l'univers, ou plutôt épistémologique, c'est-à-dire qui renvoie aux limites des raisonnements et des connaissances humaines. J'aurais tendance à dire qu'il y a les deux aspects chez Keynes et que c'est quelque chose de fondamental. Donc effectivement, prédire l'avenir sur un horizon de 3 ou 5 ans, c'est déjà extrêmement compliqué, parce qu'il y a énormément, en fait à peu près tous les événements qui vont concerner la société humaine auront un impact sur le résultat d'un investissement. Ne serait-ce que, par exemple, une guerre en Crimée, qui est très difficilement prévisible. Mmh. Ne serait-ce même que... En fait, ce qui frappe les praticiens de l'économie, les entrepreneurs, dès lors qu'ils créent une entreprise, c'est qu'ils doivent, avant même de créer leur entreprise, essayer d'évaluer le futur sur 3 ou 5 ans pour solliciter un financement. Et donc, ils doivent essayer d'évaluer des ventes, un chiffre d'affaires, très concrètement. Et pour ça, ils font donc ce qu'on appelle un business plan. Et ce qui les frappe fondamentalement, c'est à quel point cela est arbitraire, cette évaluation de chiffre d'affaires. Puisque le futur est extrêmement, tellement complexe, ça dépend tellement peu de nous, hein, d'une conjoncture qu'on ne maîtrise pas, des mouvements des concurrents aussi sur lesquels on a peu de prise, que en fait, l'incertitude est véritablement au fondement de l'économie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin d'entrepreneurs. C'est pour triompher de cette incertitude. Les entrepreneurs ont une façon spéciale de voir l'avenir. Ils ont des idées qu'ils veulent tester en créant des entreprises ou en lançant des produits. Et voilà. Donc
pour les investissements à long terme, ce que nous dit Keynes, c'est que les calculs et les probabilités jouent en effet un rôle marginal. Est-ce que c'est parce que le hasard tient une trop grande place? Et à quoi est dû le hasard selon Keynes? Il offre une place importante à ce terme de hasard dans son œuvre.
Alors je dirais pas tout à fait le hasard. C'est-à-dire que il insiste véritablement sur les limites de nos connaissances. Déjà. Puisque ça engage, en fait, créer une entreprise, ça vous engage sur 20 ou 30 ans, ou voire plus. Hein. Juridiquement, une entreprise est censée durer 99 ans, et elle peut être renouvelée, cette durée de vie. Donc ça vous engage sur le temps le plus lointain. Or, nos connaissances sont beaucoup trop limitées. Déjà, nous ne pouvons pas prédire toutes les conséquences à long terme de nos décisions. C'est déjà une première limite. Nous ne pouvons pas non plus arraisonner cet avenir incertain par un calcul de probabilité, parce que, nous dit Keynes, en fait, ça nécessiterait des causes plus ou moins invariables. Ça nécessiterait que le futur reproduise le passé, ce qui est quand même une hypothèse, on va dire, très très forte, et qui est démentie par notre expérience quotidienne. Donc nous savons très bien que le futur ne peut ressembler tout à fait au passé. Il y a toujours de l'imprévu et de la surprise, et c'est pour ça que il nous faut quelque chose qui est de l'ordre plus de l'impulsion, de la vision, pour triompher de cette incertitude, et c'est en ça que les entrepreneurs sont utiles à la dynamique du capitalisme et sont absolument indispensables.
Alors si les calculs et les probabilités ne permettent pas de passer à l'action parce qu'ils sont trop incertains, que reste-t-il selon Keynes? Est-ce que c'est le goût du risque, comme il le dit dans l'extrait qu'on a entendu, et c'est là qu'il faut peut-être mobiliser ce concept, cette théorie des esprits animaux qui guident nos actions. Tristan Roger, comment est-ce qu'on peut les définir?
Alors en effet, Keynes, dans son chapitre sur les esprits animaux, dit d'ailleurs que l'effet d'un besoin instinctif d'agir plutôt que de ne rien faire est primordial chez les investisseurs, chez les entrepreneurs. Et on a des travaux plus récents justement qui se réfèrent à cette idée de Keynes, des travaux par exemple de Kahneman, avec l'idée que les individus vont avoir tendance à mobiliser instinctivement un certain nombre de mécanismes de réflexion pour prendre des décisions. et que ça peut se faire de manière complètement instinctive. Ça, c'est ce que Kahneman appelle le système 1. Et après, il y a le système 2, qui est un système qui est plus raisonné, qui là va faire appel aux probabilités et à ce genre de choses. Mais il semblerait que vraiment les investisseurs, les individus, aient une volonté d'agir sous-jacente.
Ces esprits animaux, on pourrait les définir comme ça, une énergie mentale et une force vitale qui nous anime?
Oui, on peut voir ça comme ça. Alors, Keynes est un peu plus spécifique puisque, en fait, dans le chapitre 12 de la théorie générale, dans lequel il introduit pour la première fois le concept d'esprit animaux, il renvoie à son travail de jeunesse sur le raisonnement d'incertitude qu'il appelait donc les probabilités. Et là-dedans, il développe toute une théorie sur comment les individus font pour se projeter alors qu'ils ne peuvent pas s'aider des probabilités ou des mathématiques, ou même de la logique. Et dans cet ouvrage qui s'appelle le Treatise on Probability, Keynes donc développe une sorte de théorie alternative, effectivement, qu'on peut rattacher à toutes sortes de théories philosophiques sur la dualité des raisonnements, hein, qu'on pourrait même remonter à Blaise Pascal, qui nous dit qu'il y a l'esprit de géométrie, l'esprit de finesse. L'esprit de géométrie, ça serait le système 2 de Kahneman, l'esprit de finesse, le système 1, donc l'intuition. Et donc cette intuition, elle opère de manière analogique. C'est-à-dire que l'on va comparer les événements entre eux pour essayer d'en tirer des conclusions.
Et c'est en cela qu'ils sont automatiques, ces esprits animaux, mais qu'ils ne sont pas dépourvus de cognition.
Tout à fait. C'est pour ça que moi je préfère dire qu'ils sont irrationnels plutôt que irrationnels. C'est-à-dire qu'il s'agit d'essayer de comprendre comment l'esprit fonctionne, et en chacun de nous, nous avons bien deux façons différentes de raisonner, que nous combinons instantanément. D'ailleurs, ces deux façons de raisonner peuvent être en conflit. Et c'est d'ailleurs pour les psychologues une des preuves de l'existence, enfin les psychologues qui défendent cette théorie, une des preuves de l'existence de la dualité des raisonnements, c'est que nous pouvons avoir des pensées en conflit. Donc nous avons ces deux façons de raisonner en chacun de nous, et les entrepreneurs et les investisseurs ont bien sûr se fient plus à leur instinct parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que les bases d'application du système 2, la raison, la logique, les probabilités font défaut.
Et Keynes reprend l'expression de Descartes qui évoque, je cite, les sentiments, les émotions causées par les esprits animaux. Donc il y a cette place peut-être centrale de l'émotion.
Tout à fait. Les émotions, d'ailleurs le champ lexical employé par Keynes dans le chapitre 12 de la théorie générale renvoie tout à fait aux émotions. Hein, il parle d'optimisme spontané, de nerfs, de digestion, d'humeur, de sentiments. Et c'est pas un hasard, je parle sous le contrôle de mon collègue, et il me semble que dans les théories actuelles en psychologie sur la dualité des raisonnements, le système 1, c'est-à-dire l'intuition des individus, a une coloration beaucoup plus émotionnelle que le système 2. Et donc les deux sont absolument liés, et les émotions, on peut voir ça, il y a beaucoup de travaux en neurosciences, notamment d'Antonio Damasio et ses collègues, mais beaucoup d'autres, qui nous disent que les émotions sont finalement un legs de l'évolution, qui nous permet de faire face à des situations urgentes. Et les émotions nous servent à avoir des décisions plus intelligentes. Hein, c'est-à-dire que les émotions vont être a priori, puisque l'environnement est très complexe, ça va restreindre l'espace des possibles, ça va valoriser automatiquement certaines solutions. Ça, c'est déjà avant l'action. Et après l'action, les émotions, notamment c'est le rôle de la dopamine. La dopamine est relâchée, on va dire, dans le système nerveux, dès lors qu'il y a un écart entre nos anticipations et le résultat de nos actions. Et s'il y a un écart, c'est que ou nos aspirations ou nos croyances ne sont pas ajustées. Donc beaucoup de théoriciens vont vous dire la dopamine, donc les émotions que la dopamine génère, nous servent à réviser nos croyances et nos aspirations pour les adapter au monde. Donc les émotions ont un rôle absolument fondamental à jouer. Elles supplient les insuffisances de la raison, mais parce que la raison est impuissante face à un avenir radicalement incertain.
Et les émotions jouent un rôle très important sur les marchés, et c'est l'objet de la finance comportementale. Mental, Tristan Roger, et notamment peut-être le rôle des émotions dans les crises.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de travaux récemment, au cours des 10-15 dernières années, sur le sentiment des investisseurs. Et ce sentiment, c'est un petit peu une mesure agrégée de toutes les émotions individuelles des investisseurs sur le marché. Et on voit que ce sentiment peut avoir un impact assez important, peut avoir un impact sur les bulles, sur les cracks. Et il y a maintenant tout un ensemble de travaux où on cherche un peu à déterminer quelles sont les différentes émotions justement qui peuvent rentrer en jeu. Et il peut y avoir des choses aussi anecdotiques que, par exemple, le nombre d'heures d'ensoleillement qui peut avoir un impact sur l'optimisme des investisseurs, les résultats des grands événements sportifs, par exemple. On a montré qu'il y a un impact des résultats de ces grands événements sportifs sur également l'optimisme des investisseurs et leur aversion au risque.
Et ce sont d'ailleurs les crises qui incitent Keynes à remettre en question l'orthodoxie économique dominante, parce que pour lui, les montagnes russes que connaît l'économie prouvent que la théorie classique ne fonctionne pas.
On assiste à un éternel recommencement, puisque cette fois-ci, à nouveau, après la crise financière de 2008, la vision classique de l'économie et de la finance a été remise en question par Schiller, par Thaler, par tous les récents prix Nobel. Et c'est vraiment une fois qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas, qu'on cherche des explications alternatives.
Et ce qu'il faut souligner peut-être, Michael Lenné, c'est qu'à l'époque, dans les années 30, les esprits animaux de Keynes ne sont pas pris au sérieux. Alors pour quelles raisons ?
Oui, alors ils ne sont pas pris au sérieux parce que c'est extrêmement compliqué d'effectivement d'essayer de voir comment on se projette dans l'avenir. Même aujourd'hui, enfin pendant très longtemps dans la théorie économique, on ne les a pas pris au sérieux. Je pense qu'il y a ça beaucoup de facteurs, mais la théorie économique s'est bâtie sur un modèle d'un individu qui arrive à domestiquer l'avenir grâce à un calcul des probabilités. Et donc il fait au mieux, ce qui ne veut pas dire que ses résultats sont parfaits, mais il fait au mieux en fonction de cet avenir qu'il probabilise, de manière subjective. Donc la science économique, disons, dans ses courants dominants, s'est bâtie là-dessus et a eu tendance à reléguer à l'arrière-plan, effectivement, cette autre façon d'appréhender l'avenir qui pourrait être à l'origine de crises.
Et un élément qui peut être assez déterminant, c'est l'aléa moral. On parle de la théorie de l'aléa moral. De quoi s'agit-il, Michael Lenné, et comment est-ce que cette théorie a émergé ?
Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'aléa moral. Moi, je pense pas que ça soit. Je sais qu'Akerlof et Schiller, qui sont donc deux économistes qui ont reçu le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel.
C'est l'idée qu'on va prendre plus de risques.
Tout à fait. Lorsqu'on n'assume pas les responsabilités de ses actes. Moi, je pense que c'est très peu une question de responsabilité de ses actes. Alors, je respecte l'opinion d'Akerlof et Schiller, mais je ne pense pas que ça soit ça les esprits animaux. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Et par exemple, moi, pour moi, une des choses véritablement intéressantes en économie, c'est qu'il y a une sorte de paradoxe de la rationalité qui est lié à la confiance. On sait que pour que les individus investissent, dans un avenir qui est radicalement incertain, il faut qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Et d'ailleurs, quand vous interrogez les investisseurs ou les entrepreneurs, plus de 90% d'entre eux se voient comme meilleurs que leurs collègues. Donc ils ont une confiance en eux qu'on peut dire excessive, et en même temps, ils ont besoin de cette confiance en eux excessive pour pouvoir agir malgré l'incertitude radicale qui entoure le futur. Et donc, malgré tout, s'ils ont une confiance en eux excessive, il n'est pas difficile de se dire qu'ils prendront des décisions qui, à long terme, pourront se révéler contraires à leurs attentes et donc être facteurs de crise. Mais on a besoin, malgré tout, de cette confiance en soi excessive pour sortir de l'état d'indétermination à laquelle nous condamne l'incertitude radicale.
Et alors, prend-on plus de risques quand on est sûr ou presque sûr de ne pas en subir les conséquences ? C'est l'exemple des banques qu'on dit « too big to fail », trop importantes pour chuter, comme nous l'explique Joseph Stiglitz.
Nous devons reconnaître, et c'est un point sur lequel les financiers ne veulent pas se pencher, que notre secteur financier ne fait pas ce qu'il est censé faire. À savoir allouer le capital, gérer les risques, et ce, à un coût de transaction bas. Ils le font, mais pour un coût de transaction énorme. 40% des profits d'entreprises aux États-Unis en un an ont été réalisés dans le secteur financier. Un secteur financier compétitif devrait être un secteur restreint. C'est un moyen pour atteindre une fin, et pas une fin en soi. Nous avons donc oublié ces leçons de base. Mais les problèmes des incitations ne surviennent pas uniquement à un niveau individuel, mais également à un niveau institutionnel. Si vous avez des banques qui sont trop grosses pour faire faillite, elles savent que si elles parient et gagnent, elles empochent les profits. Si elles perdent, les contribuables vont éponger les pertes. Les problèmes des banques too big to fail sont devenus bien pires depuis le début de la crise.
Le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz. Tristan Roger, on sait que les banques too big to fail, c'est l'un des éléments déclencheurs de la crise de 2008.
Ouais, tout à fait. Et par contre, c'est finalement quelque chose de très très rationnel de la part des banques, si on prend vraiment une rationalité pure et froide, puisque de toute manière, dans la situation, les banques peuvent prendre des risques. Si ça fonctionne bien, si les marchés sont haussiers, s'il n'y a pas de crise majeure, dans ce cas-là, les profits vont être assez importants. Et si jamais il y a des problèmes financiers, qu'on se retrouve dans une situation de crise, alors on sait que le gouvernement va devoir agir pour sauver ses banques. Donc il y a une couverture au niveau des pertes, donc le comportement purement rationnel est de prendre le maximum de risques pour maximiser ses profits. Après, dans la pratique, évidemment, il y a plein d'autres caractéristiques qui rentrent en compte, et en particulier l'impact social, tout ce genre de choses-là, et surtout l'incertitude par rapport au sauvetage du gouvernement. Est-ce que le gouvernement va vraiment sauver ces banques too big to fail? On a vu avec Lehman Brothers que il y a une certaine quand même incertitude à ce niveau-là.
Alors comment prendre des décisions dans un contexte de grande incertitude? Selon Keynes, je le cite, notre besoin inné d'activité constitue le véritable moteur des affaires, notre cerveau choisissant de son mieux entre les solutions possibles, calculant chaque fois qu'il le peut, mais s'effaçant souvent devant les impulsions dues aux caprices, aux sentiments ou à la chance. On voit bien ici, Michael Lenné, que les esprits animaux n'agissent pas seuls et qu'ils sont secondés par le calcul.
Alors oui, alors j'aimerais, si vous le permettez, revenir sur cette question d'aléa morale. En fait, je suis pas tout à fait d'accord avec ces analyses en termes d'aléa morale. C'est-à-dire que je pense que ça passe à côté du problème de l'incertitude radicale. C'est-à-dire que même si les banques assumaient les responsabilités de leurs actes, je pense qu'il y aurait quand même des bulles spéculatives, tout simplement parce que déjà le futur est incertain, mais surtout, comme je vous l'ai dit, ce qui est la condition de la transaction sur un marché financier, c'est le désaccord sur le futur. Et donc, vous ne pouvez pas avoir un marché financier sans incertitude. Ce n'est absolument pas possible. Alors, peut-être qu'effectivement, on améliorerait un peu les choses en faisant sorte qu'il n'y
aurait pas des risques plus raisonnables.
Je ne pense pas, parce que je pense que véritablement, il y a un désaccord profond sur le futur. Il y a des différences de vision sur ce qu'est le futur, ne serait-ce qu'à 5 ans, et qu'il n'y a pas moyen d'éviter ça. Je pense que fondamentalement, sur les marchés financiers, il y a une instabilité qui est liée à l'imprévisibilité du futur et à la façon dont les individus essaient de remédier à ça.
On voit que Keynes, en tout cas, essaye de dépasser justement cet antagonisme entre rationalité et irrationalité en montrant justement que les esprits animaux sont secondés par le calcul et que l'émotion, comme on commençait à le dire, n'est pas dénuée de rationalité.
Oui, tout à fait. Alors, dans le passage que vous citez, moi je trouve ça très intéressant, c'est que la théorie générale a été traduite de manière extrêmement élégante par Jean de l'Argenté, mais il a oublié dans sa traduction justement le concept d'esprit animaux. Donc il a trouvé toutes sortes de phrases très imprécises pour qualifier ça. Donc, et il y a beaucoup de choses qui disparaissent dans sa traduction. Donc notamment, vous citez « notre cerveau choisit du mieux qu'il peut ». Et en fait, dans le texte originel, il est question de « nos moi rationnels ». Donc là, il y a vraiment une idée que ce n'est pas être irrationnel que de s'en remettre aux esprits animaux, puisque c'est nos moi rationnels qui calculent quand ils le peuvent, mais la plupart du temps, ils ne le peuvent pas, donc ils s'en remettent aux esprits animaux, donc ils s'en remettent aux émotions. Les émotions sont vraiment là pour suppléer les insuffisances de la raison, et ces insuffisances vont très loin, puisque ça concerne, encore une fois, les décisions les plus cruciales d'une économie.
Peut-être faut-il expliquer quelle place, quel sens Keynes donne aux mathématiques, parce que ce qu'il appelle probabilité a un sens beaucoup plus large pour lui.
Oui, tout à fait, lui il en fait un...
Michael Lenné.
C'est un concept philosophique, en fait, son premier ouvrage, donc, issu de sa thèse, sur laquelle il a retravaillé pendant plus de 10 ans. C'est une investigation philosophique sur les conditions de possibilité d'un raisonnement probabiliste, cette fois-ci au sens usuel mathématique, en économie. Donc en fait, ça l'amène à raisonner sur qu'est-ce que l'incertitude et comment raisonne-t-on de manière générale en incertitude. Donc là-dessus, pour lui, il pense qu'il y a beaucoup de probabilités qui sont de nature vague et floue, qui ne pourront jamais même faire l'objet d'une estimation ne serait-ce qu'imprécise entre des bornes numériques. On peut pas dire, par exemple, je pense que demain, il y a entre 50 et 70% de chances qu'il fera beau. En économie, il y a quand même des choses plus fondamentales, mais on peut même pas dire ça. Ou alors, je pense qu'il y a au moins 40% de chances pour que dans un an, il y ait une crise financière. On peut même pas dire ça tellement l'avenir est incertain, donc on met en œuvre autre chose, qui est donc un raisonnement analogique, qui n'a pas du tout les mêmes propriétés que le raisonnement probabiliste mathématique usuel.
C'est sur l'analogie que se fonde la croyance en un raisonnement, selon Keynes, vous le disiez, Michael Lenné. Voilà ce qu'il écrit encore. Nous disons d'un raisonnement qu'il est plus probable qu'un autre, de la même façon que nous sommes en mesure de décrire un objet comme étant plus ressemblant par rapport à un objet standard de comparaison. Donc on voit qu'il y a une part de subjectivité qui est très grande, Tristan Roger.
Alors cette subjectivité, elle est peut-être aussi tout simplement liée aux limitations cognitives des différents agents. Dans le premier son que vous avez passé, Keynes parlait de précarité des données. On se rend compte par exemple actuellement en économie, sur les marchés financiers, qu'il y a énormément de données. Mais par contre, les agents ont ces limitations cognitives, ne sont pas capables de traiter toute cette information. De la même manière, des individus qui vont prendre des décisions à un instant T vont être confrontés à une foule d'informations et vont devoir traiter cette information pour prendre la décision qui leur semble optimale. et ils vont avoir recours à tout un nombre de mécanismes qui vont leur permettre d'évaluer les probabilités, non pas de faire des calculs précis. Et je pense que c'est de cela dont Keynes parle dans cet extrait.
Alors la difficulté à anticiper l'avenir en s'appuyant sur des calculs, peut-être est-ce que cela entraîne comme conséquence des comportements grégaires de la part des investisseurs. En quoi consistent ces comportements? Comment est-ce qu'on les repère? C'est à partir des années 90 que l'étude des comportements grégaires prend de l'importance, Michael Lenné?
Oui, alors je pense même si on lisait attentivement la théorie générale avant, c'est-à-dire que ce qui est très très étrange en fait dans la lecture de Keynes, la lecture dominante, c'est que Keynes a été réinterprété dans un sens où on a gommé finalement les aspérités les plus originales et dérangeantes de sa théorie. Donc, si vous voulez, on a après-guerre, a dominé ce qu'on a appelé le keynésianisme hydraulique, c'est-à-dire un modèle très simplifié, une lecture très simplifiée de ce qu'est Keynes, où il suffisait d'ouvrir les vannes de la consommation et de l'investissement pour que monte le niveau des richesses. Ce qu'on a complètement
oublié. C'est beaucoup plus compliqué que
ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qu'on a totalement oublié du message de Keynes, c'était une très mauvaise lecture. Comme quoi on peut vivre 80 ans sur une lecture d'ouvrage complètement erronée. Ce qu'on a oublié, c'est ce qu'il appelle les variables psychologiques fondamentales. Et Keynes explique les cycles économiques, c'est-à-dire la succession de booms et de crises qui marquent les économies capitalistes. Il explique les cycles économiques fondamentalement par ces variables psychologiques fondamentales. C'est-à-dire ce qu'il appelle la propension à consommer, hein, le fait qu'on consomme une portion fixe de nos revenus pour chaque classe sociale, la préférence pour la liquidité et les variations des vues sur l'avenir des entrepreneurs et des investisseurs, donc les esprits animaux. Et c'est surtout les esprits animaux qui sont des causes de crise chez Keynes.
Et c'est ça qui entraîne le comportement moutonnier, ces variables psychologiques fondamentales ?
Effectivement, il y a donc l'anticipation sur les marchés financiers est fondamentalement psychologique, fondamentalement. Et il développe une métaphore Keynes dans son chapitre 12 de la théorie générale, qui est la métaphore du concours de beauté. Donc si on avait lu très bien et fait attention à son message dès les années 30, on aurait compris beaucoup de choses sur les marchés financiers. Il nous dit ce qui se passe sur les marchés financiers. On n'essaie pas de savoir si tel titre va, d'ici 5 ou 10 ans, nous verser des dividendes importants, ou si telle entreprise dont les titres s'échangent sur les marchés va faire des profits sur le long terme. C'est pas du tout ce qu'on essaie de savoir sur les marchés financiers. Ce qu'on essaie de savoir, c'est quelle sera la pensée moyenne sur les marchés. Et la pensée moyenne, c'est de la psychologie. Hein, donc, la métaphore du concours de beauté nous dit ceci. C'est comme imaginer un concours organisé par un journal où on nous donne le choix entre une centaine de photographies de très belles demoiselles. Il s'agit non pas de deviner parmi ces 100 photographies laquelle accorte demoiselle est la plus jolie d'entre toutes, mais il s'agit de désigner celle qui recevra le plus de suffrages. Donc là, on a quelque chose de fondamentalement différent. Il ne s'agit pas donc de savoir quelle est...
Il faut prévoir ce qui va remporter le plus l'adhésion. Et c'est
exactement
le mécanisme qui est à l'œuvre dans
tout
les marchés financiers.
Et donc c'est fondamentalement instable. Et fondamentalement, il y a une logique mimétique derrière. Et là, je vais laisser la parole à mon collègue.
Ce concours de beauté que décrit Keynes, il est parlant pour expliquer le mécanisme des marchés financiers, Tristan Relu.
Oui, tout à fait. De manière, les marchés financiers, c'est un effet de foule. La fixation des prix, c'est la majorité des investisseurs qui vont avoir l'influence sur... si la majorité des investisseurs pensent que un titre a beaucoup de valeur, alors le prix va augmenter. Si une majorité d'investisseurs pensent que, au contraire, ce titre est surévalué, le prix va diminuer. Donc c'est vraiment une question de foule.
Et on constate des comportements grégaires.
Et après, il y a des comportements grégaires sur les marchés. Alors, le terme de comportement grégaire est connoté assez négativement, de manière générale. On parle aussi de comportement moutonnier, et on a assez rapidement dans l'idée le comportement de ces moutons de panurge qui vont tous se jeter de la falaise en même temps.
Faut peut-être plus parler de mimétisme.
Alors, on peut parler plutôt de mimétisme, et il peut y avoir un comportement grégaire ou comportement moutonnier ou mimétisme qui est parfaitement rationnel et qui a une utilité. Ça peut être le cas quand vous imitez les autres investisseurs, les autres individus, parce que ça vous permet d'acquérir de l'information. Par exemple, si on prend un exemple à nouveau animal, quand vous voyez un troupeau de gazelles et qu'une partie du troupeau de gazelles commence à courir dans une direction, il est parfaitement rationnel pour les autres gazelles qui suivent de suivre le troupeau.
Ça peut être pour une très bonne raison.
Ça peut être pour une très bonne raison, un lion, un jaguar ou ce que vous voulez. Donc il y a des raisons complètement rationnelles à ce mimétisme. Il y a aussi des questions de réputation pour les agents sur les marchés, en particulier pour les gérants de fonds. Très nombreux travaux ont montré que les gérants de fonds ont plutôt intérêt à avoir tort avec le reste des gens en font, plutôt que de prendre le risque d'avoir raison tout seul, mais de se retrouver à avoir tort tout seul.
Et alors, est-ce qu'on sait, pardon de vous interrompre, qui sont les investisseurs qui imitent le plus, et qu'est-ce qui fait que certains investisseurs ont plus tendance à imiter leurs semblables que d'autres ?
Alors, je vais parler de ce que je connais bien, qui sont les investisseurs individuels. Donc, il y a eu plusieurs travaux sur le comportement d'imitation des investisseurs individuels, et en particulier un article que j'ai coécrit avec Maxime Merli de l'Université de Strasbourg. Et ce qu'on montre, c'est que les investisseurs individuels français, donc on avait des données sur des comptes bancaires et des comptes d'investissement de différents investisseurs, on se rend compte que les investisseurs français ont tendance à imiter les autres investisseurs individuels. On trouve ces résultats aussi aux États-Unis, en Allemagne. Alors ce qu'on observe, c'est principalement que les actions sont corrélées. Donc on ne connaît pas exactement les mécanismes sous-jacents. Donc on ne sait pas s'il y a une imitation directe, ce qui a été montré dans quelques travaux, ou alors si c'est simplement en fait une information qui est commune aux différents investisseurs, et donc ces investisseurs ont des préférences similaires, des contraintes d'investissement similaires, et donc au final vont prendre des décisions qui sont très très corrélées.
Est-ce qu'il y a des différences sur le genre, ou peut-être sur la complexité du titre financier dont il est question ?
Alors on trouve que les femmes ont un comportement moutonnier un tout petit peu plus élevé que les hommes, mais la validité statistique de ce résultat est très très faible, donc je me garderai de tirer des conclusions là-dessus. Par contre, on montre également que les investisseurs qu'on juge sophistiqués, donc ces investisseurs qui vont avoir des portefeuilles assez importants, qui vont traiter beaucoup, qui vont traiter des produits un peu particuliers, ces investisseurs sophistiqués ont tendance à traiter à l'encontre de la foule, donc tendance à vendre des titres alors que le reste des investisseurs achètent ces titres, et de fait vont se retrouver avec des actions qui sont décorrélées ou qui sont anticorrélées avec le reste de la foule.
Donc on a plus de chances de remporter une forte mise quand on ne subit pas le mouvement général, mais on subit aussi plus de pertes.
Alors ce qu'on trouve, c'est que les résultats de ces, les rendements de ces investisseurs sophistiqués, dits sophistiqués, ont tendance à être meilleurs que les autres investisseurs, mais en même temps on se rend compte également qu'ils prennent beaucoup plus de risques. Donc au final, c'est pas nécessairement la bonne stratégie, et il peut s'avérer en fait positif, c'est ce qu'on trouve dans notre étude, qu'il est intéressant au final d'avoir des actions qui sont corrélées avec les autres investisseurs, ça permet de diminuer le risque.
Michael Lenné, sur ce mimétisme et sur ce comportement sur les marchés financiers, on voit que Keynes est fondamental pour comprendre ces comportements.
Oui, et c'est-à-dire qu'il avait effectivement distingué très tôt, parce que lui-même était un spéculateur heureux, il s'était considérablement enrichi en spéculant, et donc il connaissait très bien de l'intérieur en fait ce type de mécanique mentale. Donc il distinguait deux types de motifs qui correspondaient à deux façons différentes de raisonner. Il disait, vous avez des investisseurs, des petits porteurs, des épargnants qui se portent sur le marché dans une optique de recevoir des dividendes. Donc pour eux, l'anticipation à laquelle ils vont essayer de se livrer, c'est de deviner si l'entreprise est rentable sur le long terme ou pas. À l'inverse, vous avez des investisseurs qui sont là dans une logique d'engranger des plus-values, c'est-à-dire de revendre plus cher qu'on a acheté. Et eux, ils sont dans une anticipation de nature fondamentalement psychologique. Comment va penser la foule ? Et ce qui nous montre très bien Keynes, c'est que même si on a donc ce mélange de deux motivations et de deux façons de raisonner, c'est toujours la spéculation qui l'emporte, in fine. La spéculation, donc le fait d'avoir une anticipation psychologique. Et pourquoi ? C'est parce que, en fait, si vous avez en face de vous, donc là c'est quelque chose de rationnel, hein, si vous avez en face de vous une action qui vaut 30 euros, et vous avez regardé les fondamentaux de l'entreprise, vous dites, bon ben non, écoutez, là elle est vraiment surévaluée, elle en vaut 25, bon voilà, vous êtes obligé de tenir compte du prix du marché. Et si vous pensez d'ailleurs que dans le futur elle va valoir 35 euros, cette action, même si vous pensez que c'est déjà à l'heure actuelle complètement surévalué, vous avez quand même intérêt à l'acheter, parce que sinon ça serait vous priver d'une plus-value de 35 moins 30 euros, 5 euros. Donc en fait, le tourbillon spéculatif tend à prévaloir, même sur les évaluations, on va dire, les plus économiquement fondées.
Long time ago, he saw an animal that liked now. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hat. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until it was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I think I'll call it a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal that liked to snort. Horns on his head and they weren't too short. It looked like there was nothing that he couldn't pull. I think I'll call it a bull. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal leaving a muddy trail. Real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I think I'll call him a pig.
Man gave names to all the animals de Bob Dylan. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho. Et on parle du rôle des esprits animaux de Keynes, cette théorie qui permet d'expliquer certaines crises financières. On est avec Michael Lenné, professeur d'économie à Sciences Po Lille, et Tristan Roger, maître de conférence à l'université Paris Dauphine. Alors on a vu que cette théorie des esprits animaux s'oppose à la vision de l'homo economicus qui serait toujours rationnelle, et ce que la théorie classique peine également à expliquer, ce sont les formations de bulles spéculatives.
Y a-t-il un phénomène que vous avez vu dans la réalité et que les modèles économiques ne permettaient pas d'expliquer ?
Eh bien, les bulles, je ne pouvais juste pas croire. L'histoire à propos des bulles était que si les marchés avaient l'air aléatoires, c'est uniquement parce qu'une nouvelle information a toujours l'air imprévisible. Or, ils répondent uniquement à de nouvelles informations. Mais nouvelles informations sur quoi ? Ça a presque l'air d'être une méthodologie à mes yeux. L'idée était qu'il s'agisse d'informations fondamentalement importantes à propos de choses réelles. Je ne pouvais juste pas y croire. L'idée que les gens pouvaient optimiser, calculer et soient prêts à mettre à jour leurs informations, c'est peut-être vrai pour une minuscule portion d'1% de la population, mais cela ne permettrait pas d'expliquer l'intégralité du marché.
Le prix Nobel d'économie, Robert Shiller, répondant à un journaliste du Wall Street Journal. On a encore du mal à expliquer ce phénomène des bulles spéculatives, Michael Lenné.
Oui, je pense, en tout cas, dans les théories dominantes.
Et comment les esprits animaux peuvent nous y aider ?
Oui, c'est-à-dire que la théorie dominante a vécu longtemps sur l'idée de ce qu'on a appelé donc l'efficience des marchés financiers. L'efficience des marchés financiers ne veut pas dire que les marchés financiers ont toujours raison et nous amènent toujours vers plus de prospérité. C'est pas ça qu'elle dit, cette théorie. Cette théorie, elle dit fondamentalement deux choses. C'est-à-dire que le cours des actions n'est question que d'informations. C'est-à-dire que les individus qui ont la même information ont la même anticipation. Donc, du coup, on balaye complètement la question des anticipations. Mais parce qu'on a une vision très déterministe de l'avenir, en fait, déterministe même avec des probabilités. Et elle nous dit que les crises sont, du coup, imprévisibles. Hein. Les marchés, c'est un peu une sorte de foi panglossienne. Ça nous fait vivre dans le meilleur des mondes possibles, mais c'est pas un monde parfait. Donc, nous avons longtemps vécu sur cette sur cette croyance-là. D'ailleurs, il y a même eu un prix après la crise, hein, qui a été un prix Nobel, qui a été décerné à Eugène Fama, qui est un des auteurs, des inventeurs de cette théorie de l'efficience des marchés financiers. En même temps, c'est assez schizophrène, qu'ont récompensé Robert Shiller, qui lui a beaucoup écrit sur l'exubérance irrationnelle des marchés. Donc il y a une forte résistance, c'est quasiment psychanalytique, il faudrait faire la psychanalyse de la profession, pourquoi on veut à tout prix sauvegarder ces théories-là, puisque là il y a quand même quelque chose de fondamental qui est évacué, c'est la question de l'anticipation, la question du jugement. Encore une fois, pour qu'il y ait transaction sur un marché financier, il faut qu'il y ait un désaccord, donc il faut qu'il y ait un jugement différent. Or, la profession a cédé, et de même dans les marchés financiers, on a cédé à ce que j'appellerais un fétichisme de la technique mathématique, hein, avec ce fantasme que finalement les mathématiques vont prédire l'avenir. Or, fondamentalement, l'avenir est imprévisible. Hein, quelle que soit la complexité mathématique, cette complexité mathématique ne fait qu'introduire plus d'instabilité à long terme, hein, et plus d'incertitude finalement, puisque ça s'accompagne de la croyance que ça y est, on a domestiqué l'avenir et qu'il ne réservera plus d'énormes surprises. Or, fondamentalement, nous ne serons jamais en mesure de décrire mathématiquement l'avenir ou de toute autre manière.
On parlait tout à l'heure, ouais. Pardon de vous interrompre, Michael, ouais. Lenné, des comportements grégaires qui peuvent être rationnels, mais c'est justement lorsqu'ils sont irrationnels que se forment des bulles spéculatives. Tristan Roger, ça pourrait être l'un des facteurs d'explication ?
Alors ça peut être un des facteurs, il peut également y avoir des comportements parfaitement rationnels qui consistent à acheter des titres qui sont dans une bulle spéculative, en train d'être... dans une bulle spéculative, simplement parce que vous pensez que vous pouvez revendre le titre plus cher plus tard. C'est un raisonnement qui est parfaitement rationnel, d'accord, individuellement. Évidemment, collectivement, ça génère des bulles spéculatives et donc ça, la valeur du titre va s'écarter de sa valeur fondamentale, qui est, ne peut pas être estimée facilement. Mais c'est quelque chose qui est vraiment partagé par l'ensemble des investisseurs. On a dans ce qu'on appelle les expériences en économie, l'économie expérimentale, on a une expérience qui a été faite en 88, qui, où simplement c'est des étudiants ou des individus qui vont traiter un actif dont la valeur fondamentale est parfaitement connue. Et on leur demande de traiter cet actif, d'échanger, de vendre et d'acheter cet actif. Et dans quasiment toutes les expériences qui ont été réalisées, il y a des dizaines d'expériences qui ont été réalisées, on observe des bulles spéculatives. Et c'est-à-dire que la valeur du titre s'écarte très très largement de sa valeur fondamentale. Et alors c'est peut-être lié à ce que Keynes disait de le besoin d'agir et donc le besoin d'acheter les titres. Je n'ai pas d'explication pour ça, mais en tout cas c'est quelque chose de vraiment implémenté chez les individus.
On voit que les investisseurs peuvent imiter les autres sous l'effet de la pression sociale, des représentations. C'est ce que Keynes appelle les conventions. La convention, c'est ce qui vient peut-être dissimuler à nos propres yeux l'étendue de notre ignorance.
Oui, tout à fait, c'est un substitut à notre ignorance, hein, pour, il le dit, pour la paix et le confort d'esprit, nous avons besoin de nous cacher l'étendue de notre ignorance. Et donc, on a recours à des conventions pour ça. Une des conventions qui a le plus cours, hein, sur les marchés financiers est la convention de liquidité. C'est-à-dire, la liquidité, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité pour un titre financier, n'importe lequel, à être converti en argent rapidement et sans coût. Hein, et c'est quelque chose qui, à un niveau individuel, fait tout à fait sens. Hein, il dénonçait déjà à l'époque ce qu'il appelait le fétichisme de la liquidité sur les marchés financiers. Sauf que là, il y a un paradoxe intéressant. C'est-à-dire que la liquidité n'est possible que si tout le monde ne la veut pas en même temps. C'est-à-dire qu'à un niveau individuel, vous pouvez vouloir être liquide. À ce moment-là, vous vendez votre titre et vous avez de l'argent en retour. C'est ça, la liquidité. Vous le vendez rapidement et sans coût. Sauf que si tout le monde veut être liquide en même temps, tout le monde se porte vendeur et le marché s'effondre. Il y a là un paradoxe de la liquidité qui est d'ailleurs ce qui s'est passé en 2008. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout le monde voulait se débarrasser de ses titres foireux et le marché s'est immobilisé. Puisqu'il n'y avait pas de contrepartie, il n'y avait pas d'acheteur. Tout le monde voulait vendre, il n'y avait pas d'acheteur. La liquidité s'est effondrée. Donc la croyance en la liquidité est elle-même, dès lors qu'elle est massive, génératrice de crise. Et on ne voit mal comment on pourrait faire en sorte qu'il n'y ait pas cette croyance sur les marchés financiers.
La crise de 2008, c'est d'abord une crise de liquidité, Tristan Roger.
C'est une crise de liquidité, c'est une crise de confiance, mais c'est tout d'abord vraiment une crise financière, c'est lié à ces peu produits et à une déconnexion en fait entre la valeur économique des produits et leur valeur financière. C'est ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait des titres qui s'échangeaient sur les marchés dont il était absolument impossible d'évaluer, même d'estimer approximativement quelle était leur valeur financière. Donc vraiment, à la base, c'est un problème financier. Et ensuite, il y a eu donc un problème de confiance, dès qu'il y a eu, à partir de la faillite de Lehman Brothers, mais même déjà un petit peu avant, il y avait des interrogations par rapport à quelle banque détenait quel actif, est-ce que telle entreprise, telle banque se trouvait au bord de la faillite ou se trouvait dans une situation délicate, et donc plus personne ne voulait se prêter d'argent, plus personne ne voulait se porter contrepartie, c'est-à-dire échanger des titres avec d'autres institutions. Oui.
Dans ce mécanisme, on voit qu'on finit par produire non pas ce dont les gens ont besoin, mais ce dont ils croient avoir besoin, Michael Lenné. C'est là que réside le problème dans ces représentations.
Oui, alors il y a quand même donc Monsieur Roger a employé un terme qui est très important sur les marchés financiers, celui de confiance. Il y a des travaux récents en neurosciences et en psychologie qui ont beaucoup étudié ces phénomènes de confiance. Alors confiance, qu'est-ce que c'est? On la confond souvent avec l'optimisme. L'optimisme, c'est le résultat donc d'une évaluation de rentabilité. Hein. Donc c'est si jamais je pense que mon investissement est rentable, je serai optimiste. Sauf que la confiance, c'est pas la même chose. La confiance, puisqu'on sait que l'avenir est incertain, non seulement on doit estimer la rentabilité d'un investissement, mais aussi on doit estimer la qualité de notre estimation de rentabilité. Et c'est ça la confiance, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui une métacognition, c'est-à-dire une cognition au sujet d'une cognition, une réflexion sur une réflexion, sur la qualité de notre subjectivité. Et on sait très bien que la confiance, par exemple, plus les individus sont pressés par l'urgence, plus ils ont confiance dans leur jugement. Or, sur les marchés financiers, surtout quand il y a des périodes un peu de nervosité, on est pressé par l'urgence et donc on tend à s'exagérer complètement la qualité de nos jugements, et c'est ce qui conduit à des décisions profondément irrationnelles. On sait par ailleurs que notre cerveau, ça c'est vraiment des travaux récents en neurosciences, a une propension innée, en quelque sorte, à maximiser sa confiance dans les limites du vraisemblable, puis à vouloir se justifier en révisant à la hausse ou à la baisse l'anticipation de départ, pour la rendre conforme finalement. Et la confiance opère en fait comme une force d'auto-aveuglement sur les marchés financiers, hein, comme une âme, ça sert à se protéger de toute remise en question, et donc la confiance peut être à l'origine de cycles, et ça c'est relativement inévitable, puisqu'en même temps, pour enclencher un boom, il faut avoir confiance dans son jugement. Mais cette confiance va nous amener à prendre des décisions qui, sur le long terme, vont se révéler contraires aux anticipations qui les ont vues naître. D'où la nature tragique, profondément tragique, de l'économie, et plus... Moi, c'est, en tout cas, c'est ma conviction. Je pense que plus la finance sera dérégulée, plus les crises financières seront fréquentes et plus nous connaîtrons cette nature tragique de l'économie.
Le comportement grégaire dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi celui des épargnants qui courent retirer leurs dépôts à la banque lorsque plane la menace d'un krach boursier.
Les mouvements de panique sont par essence incontrôlés. C'est pourquoi, bien que la panique financière de 1893 soit née de la crainte d'une dépréciation de la monnaie légale, la première réaction des déposants était de retirer ce qu'ils avaient déposé dans les banques. Mais le véritable motif se situe bien en amont de toute question sur les différentes formes de monnaie. L'expérience avait enseigné aux déposants qu'en cas d'effondrement général du crédit, la situation des banques préfigure le désastre à venir. Nombreux parmi ces déposants étaient ceux qui avaient perdu leurs économies dans les faillites bancaires lors des précédentes dépressions en 1873 et 1884. C'est donc l'instinct qui les a guidés quand les mêmes signes se sont manifestés en 1893, les incitant à récupérer leurs avoirs le plus vite possible, car en règle générale, les gens n'utilisaient guère que la monnaie légale pour leurs transactions. Mais quand les déposants des banques à l'intérieur du pays ont réclamé du liquide, et qu'il s'est avéré que ces banques avaient une réserve disponible d'équivalent à 6% seulement de leurs dépôts, d'énormes sommes ont été retirées des agents de réserve de la côte Est.
Une description de la panique bancaire en 1909 dans le New York Times par le poète Alfred Noyes. C'était lu ici par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous, l'écho. On voit bien ici que ce phénomène finit par entraîner la faillite redoutée, Tristan Roger.
Alors dans le cas des paniques bancaires, c'est quelque chose d'assez intéressant puisque c'est un comportement qui est parfaitement irrationnel collectivement, mais parfaitement rationnel individuellement. C'est-à-dire que si vous voyez une file qui commence à se créer devant une banque, et en l'absence de garantie des dépôts, ce qui est maintenant un instrument qui permet justement d'éviter ces paniques bancaires, pas parfaitement, mais si vous voyez une file devant une banque, vous savez que les gens vont retirer leur argent, ce qui va mettre en difficulté la banque, et ce qui va peut-être empêcher la banque derrière de pouvoir garantir vos dépôts. Donc dans ce cas-là, il est parfaitement rationnel d'aller retirer soi-même son argent. Mais la conséquence collective est désastreuse.
Michael Aîné, sur ces effets, sur ces paniques bancaires et peut-être aussi sur le fait que c'est aussi le mimétisme social qui explique la flambée des prix de l'immobilier avant la crise de 2008 aux États-Unis. On voit ce même mécanisme, ce même mimétisme.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle de manière très générale, et c'est un concept qui est venu de la sociologie, ce qu'on appelle les prophéties autoréalisantes. C'est-à-dire que vous faites une prophétie et du fait que une majorité de personnes font cette prophétie, elle va se réaliser. Donc si, pour une raison complètement absurde, ou pour n'importe quelle raison, une majorité d'individus croient que les prix vont monter, ils vont vouloir en profiter tout de suite avant que ça monte, donc ils vont se porter acquéreurs de ce bien, et donc ça va faire monter les cours en raison de la loi de l'offre et de la demande. Hein. Plus la demande est importante, plus les prix montent, et donc c'est un processus qui peut aller très loin. Hein, qui s'auto-valide lui-même. Et donc la spéculation, comme ça, monte sans cesse des étages sur elle-même, jusqu'au jour où ça devient absolument intenable. Vous avez beau avoir une confiance maximale, vous bercez d'histoires réconfortantes, malgré tout, on sait très bien que les bulles finissent en crack. Mais ça, c'est quelque chose d'absolument... D'ailleurs, ça joue à la hausse comme à la baisse, ces prophéties autoréalisatrices, et elles sont absolument fondamentales en finance.
Il faut aussi préciser que les marchés influencent les décisions d'investissement, mais n'en sont pas directement responsables. Tristan Roger, notamment dans le fait quand la spéculation prend le pas sur la volonté d'investir dans les infrastructures, par exemple.
Alors, je ne suis pas certain de bien cerner la question.
Est-ce que les marchés sont le lieu de la décision, véritablement ?
Alors normalement les marchés sont simplement le lieu où vont s'échanger les actifs. Normalement les marchés financiers doivent être un outil qui doit épauler l'économie. Il s'avère qu'il peut y avoir justement maintenant une déconnexion entre ces deux choses-là. Normalement vraiment à la base des marchés financiers, vous avez une offre quelque part, une demande quelque part, et on fait rencontrer cette offre et cette demande. Ça doit être aussi simple que ça. Après on a cherché à complexifier les marchés de manière à pouvoir répondre au maximum de demandes et cerner le maximum de situations. Et maintenant on se retrouve, alors surtout au moment de la crise, on se retrouve dans une situation où les marchés sont très 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 complexes et peut-être plus nécessairement tout le temps au service de l'économie réelle.
Si on veut résumer, est-ce qu'on peut dire que l'émotion, les esprits animaux en général, peut-être l'émotion en particulier, joue un rôle à la fois lors de l'investissement par les entrepreneurs et lors du financement qui met en jeu les marchés, Michael Aîné ?
Oui, tout à fait. C'est une manière générale d'essayer d'appréhender le futur. Donc ça nous concerne tous et ça concerne en particulier les individus qui tentent de se projeter dans le futur le plus lointain, donc pour lequel l'incertitude est la plus absolue, la plus fondamentale. Donc évidemment, ils s'en remettent plus que les consommateurs à leurs esprits animaux. Donc oui, ça concerne aussi bien l'investissement productif, donc ça a un rôle quand même positif à jouer, puisque sans investissement productif, il n'y aurait pas la dynamique capitaliste, il n'y aurait pas l'innovation non plus. Fondamentalement, l'innovation, il faut avoir une vision, il faut avoir... voilà une croyance forte qui ne peut pas être complètement mathématisable. Hein, c'est voilà et donc c'est un rôle à la fois positif à jouer et négatif puisque c'est aussi facteur d'instabilité et d'incertitude.
Un dernier mot sur ces esprits animaux et sur ce qu'ils nous permettent, notamment peut-être de mieux prévoir l'avenir, ou en tout cas c'est important de connaître ces esprits animaux.
Oui, tout à fait. Pour le moment, on s'est plus intéressé de manière générale au côté négatif, aux aspects négatifs de ces esprits animaux, de ces comportements irrationnels. Mais il s'avère, il y a des travaux récents du prix Nobel de Richard Thaler qui montrent qu'on peut justement utiliser ces comportements irrationnels dans un but d'améliorer l'intérêt général et qu'on peut finalement profiter, si on comprend mieux ses comportements, on va pouvoir les utiliser à meilleur escient.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrat pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffany, bonjour à tous.
Vous revenez aujourd'hui sur l'attribution du prix Nobel d'économie aux Américains William Nordhaus et Paul Romer.
Oui, au plus exactement du prix de la Banque Centrale de Suède en sciences économiques, puisque l'économie ne faisait initialement pas partie des domaines distingués par le chimiste Alfred Nobel. Ce n'est qu'en 1968 que la Banque Centrale Suédoise suggère la création de ce prix. Pour le reste, l'économie est un Nobel comme les autres, censé récompenser, je cite, « les personnes ayant rendu à l'humanité les plus grands services au cours de l'année passée ». Ce sont donc William Nordhaus, professeur à l'université de Yale, et Paul Romer, enseignant à la Stern School of Business, qui ont été récompensés, selon les mots de l'Académie Nobel, pour leurs travaux visant à conjuguer croissance de long terme et bien-être de la planète.
Et sur quoi portent ces travaux, Arjuna ?
Eh bien, Paul Romer a surtout été distingué pour ses recherches menées au début des années 80 concernant ce qu'il appelle les théories de la croissance endogène. En clair, c'est l'idée que pour faire de la croissance, on a surtout besoin d'idées, d'innovations et de brevets qui permettraient une croissance virtuellement infinie. Le problème, c'est qu'un tel modèle ne prend pas du tout en compte la question de la limite des ressources naturelles. Dans les travaux de Romer, la nature est considérée comme un capital comme les autres, capital que l'on peut donc remplacer ou rembourser en cas de dommage. C'est ce que l'on appelle la soutenabilité faible. En clair, l'idée que l'on peut bien tuer les abeilles ou on trouvera toujours un moyen de les remplacer par des robots pollinisateurs, par exemple. Et en plus, cela créera de la croissance et des emplois sur un plan économique, c'est donc tout à fait formidable. Pour l'économiste Aurore Laluc, auteur de « Faut-il donner un prix à la nature ?», le problème d'un tel raisonnement, c'est qu'il nie le caractère irremplaçable de certains éléments de la nature. Tout n'est pas substituable, et en particulier les ressources communes naturelles, qui ne peuvent être compensées par plus de capital humain ou de capital industriel.
William Nordhaus a quant à lui travaillé sur les dégâts causés par l'activité économique sur l'environnement.
Oui, et c'est même l'un des premiers à s'être intéressé à cette question en développant dès les années 70 des modélisations permettant de comprendre l'effet de l'économie sur l'environnement et inversement. Comme l'explique Antonin Potier, économiste spécialiste des questions écologiques, le modèle de Nordhaus cherche à faire une analyse coût-bénéfice afin d'établir ce que l'on appelle une cible optimale. C'est à peu près le même type d'analyse que celle que nous développons hier, celle de Nicolas Stern sur le coût de l'inaction. Nous avons d'un côté les montants à investir pour aller vers un modèle décarboné et de l'autre les coûts prévus liés au réchauffement climatique. Le problème, c'est qu'avec cette trajectoire dite optimale, on se trouve très loin des objectifs fixés par le GIEC pour éviter la catastrophe écologique. Dans ses dernières publications, poursuit Antonin Potier, Nordhaus évalue à 3,5 degrés la trajectoire optimale afin de concilier croissance économique et réponse aux défis environnementaux. Très, très loin donc de l'objectif d'1,5 degré fixé par le GIEC. Les travaux de Nordhaus envisagent ainsi la décision politique nécessairement soumise à une prétendue rationalité économique. Le véritable objectif reste la croissance, et ce, quel que soit l'impact sur l'environnement et les ressources naturelles.
Nordhaus est notamment le fervent défenseur d'un marché du carbone.
Exactement, selon le nouveau Nobel, il est ainsi nécessaire d'établir un prix mondial du carbone avec des quotas et des échanges afin de réguler les émissions de gaz à effet de serre. Mais la tentative de trouver un consensus sur cette question au cœur des négociations climatiques de ces dernières années a pour ainsi dire empêché toute démarche alternative, enfermant nos dirigeants dans une logique classique de marché. Selon Aurore Laluc, toujours, c'est à cause de l'influence de ces théories que l'on est aujourd'hui dans une situation désastreuse en matière de lutte contre le changement climatique. Pour elle, ce Nobel vient en réalité couronner le travail de chercheurs qui ont passé leur vie à justifier le fait qu'il ne fallait surtout rien changer et qu'il suffisait de faire confiance au marché pour régler tous nos problèmes. En réalité, cette économie dite de l'environnement ne fait que reprendre les outils conceptuels de l'économie classique pour les appliquer aux questions écologiques sans en saisir les spécificités. Pour citer René Passé, penseur de l'écologie politique, l'économie est incluse dans la sphère humaine, mais ce n'est qu'une dimension de celle-ci. C'est donc l'économie qui doit se soumettre aux logiques de la nature et non pas l'inverse.
Certainty of Chance de The Divine Comedy. Merci beaucoup Michael Lenné, professeur d'économie à Sciences Po Lille. Je rappelle votre ouvrage « Sous l'emprise des esprits animaux, essai sur l'anticipation d'investissement des entrepreneurs » paru aux éditions Classique Garnier. Et merci à vous Tristan Roger, maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine. Demain, on verra comment le marketing joue sur nos émotions et nos représentations pour nous faire consommer toujours davantage. Et en attendant, vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.